Monique Kirouac, vous êtes là, Monique?
Oui, je suis toujours là, Hélène.
Alors, allez-y.
Alors, ben, écoutez, on l'a entendu, hein, aux États-Unis, 13 agences fédérales ont pour mission de récolter, d'analyser et de rendre disponible une foule de statistiques. Des données sur la météo, le taux de chômage et d'inflation, les statistiques sur la pollution, la population, la santé, l'éducation. Mais, parce qu'il y a un mais, est arrivé au pouvoir, on sait qui?
Mm-hmm.
DT. Ça a l'air d'un engrais négatif, hein,
ouais.
De DT.
Mais c'est à peu près ça.
Alors, dès son arrivée, ben, celles-ci ont vu leur mission attaquée. Il y a des sites web comme Climate.gov qui ont été fermés, des agences torpillées. C'est le cas du National Center for Education Statistics, qui a perdu 95% de son personnel. Ouf! Des collectes de données comme l'enquête nationale annuelle sur l'insécurité alimentaire ont tout simplement, Hélène, été annulées. Vous le savez certainement, ce n'est là qu'une des nombreuses mesures anti-sciences prises par le gouvernement américain. L'attaque contre les données est plus discrète que les congédiements massifs de scientifiques, l'ingérence politique dans le calendrier vaccinal ou les coupes d'au moins 1 milliard dans le financement de recherche. Mais elle reste tout de même inquiétante. Alors, elle prive les scientifiques, y compris au Canada et au Québec, ça aussi, hein, d'informations cruciales à leurs travaux. 2, sans chiffres précis, personne ne pourra évaluer l'effet des politiques gouvernementales. Dans le texte, il y a 3 points de suspension. Ça en dit beaucoup, cette ponctuation. En réaction, il y a des groupes de bénévoles, majoritairement des bibliothécaires, travaillant dans les universités, qui ont entrepris de sauvegarder les données jugées les plus à risque de disparaître afin de les héberger sur des sites indépendants. Linda Kellum est directrice des données de recherche et de la recherche numérique pour les bibliothèques de l'Université de Pennsylvanie, qu'on appelle Penn State, qui est une université d'État. Elle est cofondatrice et membre du comité directeur de l'un de ces groupes, qui se nomme le Data Rescue Project. La plupart des membres du Data Rescue Project sont bibliothécaires dans les universités. Au quotidien, ce personnel aide les étudiants et les équipes de recherche à trouver les données officielles dont ils ont besoin pour leur recherche ou leurs travaux. Lorsque des données ont été retirées des sites web des Centers for Disease Control and Prevention, les bibliothécaires ont commencé à recevoir des courriels paniqués de leurs usagers. Peu de temps après, quand ils ont vu la fermeture du site web de USAID, l'Agence américaine de développement international fondée en 1961 et abolie en 2025 par M. T, ben, ce groupe de bibliothécaires a décidé d'agir. Alors, vous vous demandez peut-être comment se fait la sauvegarde des données.
Bien oui.
Alors, plusieurs bénévoles ont téléchargé des fichiers manuellement, Hélène,
oh,
en cliquant sur les liens un par un.
Un jeu de patience.
Et je souligne, c'est du travail bénévole, donc certainement en dehors de leurs heures de travail. Dans d'autres cas, même si un site web avait été fermé, sa base de données restait ouverte. On pouvait toujours en extraire les données. Dans plusieurs cas, ce ne sont pas les données elles-mêmes qui ont été retirées, mais des produits dérivés. Ainsi, les données sur le climat produites par la NASA ou la NOAA, c'est-à-dire le National Oceanic and Atmospheric Administration, n'ont pas été supprimées. Mais le gouvernement a fermé le portail Climate.gov, qui proposait des outils de visualisation et des articles pour rendre la science accessible au grand public. Les chercheurs pourront probablement toujours accéder aux données, mais le public a perdu un outil intéressant. Certains employés congédiés ont relancé le site à l'adresse Climate.us, mais pour le moment, malheureusement, il n'est pas aussi riche que l'était Climate.gov. Une question sur la légalité de sauvegarder ainsi les données pour les rendre disponibles sur d'autres sites se pose. Ben, il n'y a rien d'illégal, ne vous inquiétez pas. Parce que les bibliothécaires s'intéressent uniquement aux données disponibles dans le domaine public. Il existe bien sûr des ensembles de données auxquels le personnel n'a pas accès, car ils contiennent des informations personnelles avec lesquelles on ne peut travailler, on le sait, la confidentialité des données personnelles, c'est très important. Ces données sont celles donc du public. En restreindre l'accès ou menacer leur intégrité au point où on ne peut plus s'y fier porte atteinte à la démocratie. Alors, on peut se demander comment les gens réagissent à ces attaques contre les données gouvernementales. Ben, on peut facilement imaginer que la communauté de recherche en sciences, entre autres en sciences sociales, est mobilisée. Ont été sauvegardés 1600 jeux de données depuis le début de l'année. Plusieurs médias ont couvert les efforts. Le défi est de sensibiliser les responsables politiques. Mais il y a tellement de choses qui se passent, de feu à éteindre partout. 3 points de suspension, n'est-ce pas?
Ouais.
Maintenant, il faut planifier l'avenir. On ne pourra pas toujours compter sur le travail bénévole. Et d'ailleurs, le groupe Data Rescue Project va probablement mettre fin à ses activités. Mais, avant... Ce groupe veut créer une boîte à outils pour aider d'autres personnes à mettre en place quelque chose de similaire en cas de besoin. On nous relate que le Data Rescue Project a lui-même beaucoup appris du projet SUCHO, S-U-C-H-O, qui tient pour Saving Ukraine Cultural Heritage Online, en français, sauvegarder le patrimoine culturel ukrainien en ligne. Il y a donc une belle solidarité internationale qui se crée sur ce plan-là. Mais pendant ce temps-là, que se passe-t-il au Canada? Eh bien, plusieurs bibliothécaires et universitaires ont participé à l'effort américain. Mais la communauté regroupée au sein du Canadian Public Data Rescue Initiative s'attelle maintenant à mettre en place une structure de sauvegarde de données publiques canadiennes. Question d'être prête si le problème survient à Ottawa. Alors, on n'est pas à l'épreuve de cette réalité. Si je peux, Hélène, deux petites minutes.
Oui, vous pouvez.
Je soulignerai une lettre d'opinion qui a été publiée hier, mercredi 25 mars, dans la section d'opinion de la Presse Plus par le recteur de l'université, Daniel Jutras. Cette lettre d'opinion apporte une lumière positive, je trouve, sur Montréal. On se rappelle qu'il y a les cinéastes Chris Lavis et Maciek Sterbovitsky qui ont remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation aux Oscars il y a 2 semaines, je pense. Qui s'intitule « La jeune fille qui pleurait des perles ». Et je vous invite, je vous en prie, allez voir ce beau petit film de 17 minutes sur le site de l'ONF, c'est facile d'accès, c'est magnifique.
Oui, à voir et à revoir, c'est magnifique et c'est fascinant aussi.
Oui, tout à fait. Et il y a aussi, on en a parlé la semaine dernière, le professeur Gilles Brassard de l'Université de Montréal qui a été honoré du prix Turing aux côtés du physicien américain Charles H. Bennett. Eh bien, il y a de quoi relativiser le sentiment souvent répandu sur l'état de la métropole. Montréal, c'est pas juste des nids de poules et c'est pas juste des cônes oranges. C'est aussi un terreau fertile pour les idées les plus audacieuses. Et la présence de grandes universités y assure une source continue de talent et d'énergie créatrice. Un dynamisme qui vient consolider plusieurs florons économiques et culturels. Et il nous dit, le dernier paragraphe de son texte, « Au-delà de la fierté qu'inspire un Oscar ou un prix Turing, ces succès nous rappellent qu'ils ne doivent rien au hasard. Ils sont le fruit d'un écosystème qui s'est patiemment construit ici, à Montréal, ville plurielle, doublement insulaire par sa géographie et par sa francophonie que l'on se doit de protéger, j'ajouterai. Un écosystème qui doit absolument être préservé pour que Montréal soit toujours grand, comme un désordre universel, ce que disait Gaston Miron. C'est dans ce terreau, à l'échelle humaine, toujours un peu chaotique, que poussent les découvertes comme la cryptographie graphie, oui, quantique de Gilles Brassard ou des œuvres inimitables comme celles de Lavis et Tchertchevski.
L'oscarisé, voilà. Oui. Un des oscarisés. Ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. Merci beaucoup, Monique. Et merci aussi à Daniel Jutron, on peut lire son texte dans la presse d'hier.